Podcast. Cédric Wautier, question clé, jusqu'à midi sur la première.
Les jeunes aventuriers du séminaire salésien de Sherbrooke sont attaqués par des bandits.
Une personne par équipe doit perdre 15 points de vie.
Amélie guérit Ariane, Caroline protège Alexis et Maggie jette un sort de protection. On se croirait au beau milieu d'un jeu de rôle de type Donjons et Dragons. En fait, il s'agit du cours de physique du professeur Sean Young, inventeur du jeu World of Classcraft.
Extrait d'un reportage de nos collègues canadiens sur ce fameux jeu World of Classcraft, utilisé donc au cours de physique. Thibaut Philippette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, professeur invité en sciences et techniques du jeu à la Haute École de Bruxelles et membre de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. On va parler de gamification ou de ludification de l'apprentissage. Vous connaissiez, vous, ce jeu dont on vient de parler?
Mais figurez-vous que je l'utilise, en fait. Je l'ai utilisé ici, donc dans le cours de jeux multimédia et jeux sérieux que je donne à la Haute École de Bruxelles. Et donc, je fais une expérience de gamification avec mes étudiants, qui s'est plutôt pas mal passé. Ils sont une vingtaine, donc la dynamique permettait de le faire.
Quand on parle de ludification de l'apprentissage, c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est par le jeu vidéo. Quand on se plonge dans l'histoire, on remarque que dans l'enseignement, on a toujours joué pour apprendre.
Bien sûr, on a toujours joué pour l'apprendre. Maintenant, comme le dit bien Gilles Brugère, qui a un petit peu étudié le phénomène finalement du rapport entre jeu et apprentissage à l'école, il y a différentes formes de pédagogie autour du jeu, ou en tout cas d'intérêt porté envers le jeu et sa place au niveau scolaire. Alors parfois le jeu peut être utilisé, on va dire, en amont ou en aval de certains apprentissages. Et ici, le phénomène de gamification, c'est plutôt de repenser finalement des formes de cours à travers une structure ludique. Donc World of Classcraft est un exemple qui est un système qui va permettre de valoriser d'une certaine manière certaines activités à travers des récompenses, un personnage qui monte en niveau, etc.
Alors vous allez faire partie d'une table ronde sur la gamification, donc la ludification de l'apprentissage, qui se déroulera le 24 avril au Point Culture de Louvain-la-Neuve.
Ouais.
Et autre invité de cette table ronde, eh bien, c'est Vanessa Lalo, qui est psychologue clinicienne spécialisée dans les jeux vidéo. Et François Némette l'a eu au téléphone. Et justement, il voulait récolter son avis par rapport à la ludification de l'apprentissage.
Bien sûr.
Le jeu vidéo, c'est plein de leviers pour les apprentissages. On peut vraiment tout faire avec les jeux vidéo selon le contexte d'utilisation et le discours que l'on y met et les objectifs que l'on se fixe. On peut entièrement tout faire et vraiment rattraper plein d'élèves en échec scolaire. On peut appuyer sur tout plein d'éléments du jeu pour aller vers le réel, pour appuyer les connaissances, pour expérimenter les connaissances de manière pragmatique. Le jeu vidéo, c'est un formidable outil de médiation pour tout faire, hein, que ce soit pour la pédagogie, les thérapies, la culture, ou tout ce que l'on souhaite.
Mais donc, il y a différents usages qui sont faits, évidemment, de ces jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on peut observer? Il y a des jeux quand même plus spécifiquement adaptés à l'apprentissage. Comment vous percevez cela?
Non, tous les jeux peuvent être utilisés dans les apprentissages. C'est vraiment juste une question de perception, en fait, du jeu et de contexte. Un jeu comme Minecraft, il est beaucoup utilisé parce que il est rassurant, on n'est pas dans la course à l'innovation technologique, donc pour les parents c'est rassurant, c'est des petits cubes et des Lego virtuels, et puis on peut entièrement tout faire, on a vraiment plein de points de passage avec les apprentissages, avec le programme scolaire qui sont très faciles à faire, mais après n'importe quel jeu vidéo de l'industrie, qu'il soit conçu pour les apprentissages ou pas, va avoir potentiellement un impact très favorable, parce que finalement les jeunes, ils sont en recherche de gratification, d'interactivité. Donc du moment qu'on leur donne un jeu vidéo avec lequel ils peuvent expérimenter des choses, se projeter dans l'écran, s'identifier à des personnages, etc., en fait on va être dans un engagement du corps et un engagement dans l'apprentissage immédiat avec l'interactivité des outils, que ce soit les tablettes, les téléphones ou les jeux vidéo au sens large. Tous les outils numériques vont être attractifs pour les jeunes qui ont l'habitude de les utiliser. Et si on utilise leurs codes et leurs usages...
Mais on n'a pas l'impression quand même que le jeune est enfermé dans ce jeu vidéo, qui n'a pas vraiment de relations sociales, qui lui permet aussi de grandir, d'apprendre des choses.
Ah si, au contraire, les jeux vidéo aujourd'hui se jouent quasiment tous en réseau, donc les jeunes font partie de groupes, de communautés, de guildes, donc ils ont des responsabilités, ils ont des fonctions hiérarchiques, ils respectent leur maître de jeu, il y a vraiment tout un pan de la société qui se passe sur les jeux en fait, hein. Et c'est même plus du virtuel, on peut même plus parler de virtuel, parce que tout ça c'est des gens réels qui parlent réellement, qui ont des vraies relations, peu importe qu'on soit derrière des écrans interposés. Quand on joue, le lapsus avec un avatar par exemple, c'est le risque de montrer son image aux yeux du monde et de devoir aussi se réajuster par rapport à ce que l'on fait, son comportement, ses propos. C'est une vraie vie en groupe, hein. Donc c'est très très bien pour la construction des jeunes, au contraire.
Il faut quand même introduire au maximum ce jeu vidéo dans la pédagogie, dans les écoles. Ça veut dire quoi? Qu'il faut faire jouer de plus en plus tôt, ou peut-être les amener à jouer autrement, notamment avec les CD-ROM pédagogiques, enfin ce qu'on avait avant comme CD-ROM pédagogiques, qui ont aujourd'hui évolué aussi vers le jeu vidéo?
Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer des outils numériques dans toute leur globalité, donc que ce soit Internet, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les comptes interactifs, les applications. On est numérisé, donc il faut que les parents, que les enseignants utilisent ces outils-là comme des compléments dans l'éducation pour faire une continuité entre le numérique et le réel. Pour leur apprendre à utiliser le numérique, pour prévenir les risques, il faut que les parents soient là aussi, que les éducateurs et les enseignants soient là, en accompagnant en fait tous ces mouvements pour que chacun puisse s'ajuster au fur et à mesure, pour qu'on puisse les exploiter convenablement. Parce que si on laisse les jeunes faire n'importe quoi sans poser aucun cadre et sans leur proposer des jeux qui pourraient être un peu plus intéressants ou qui pourraient nous aider à faire passer d'autres messages, on les aide pas du tout et on passe à côté en fait de l'éducation, de la parentalité, on passe à côté de cette jeunesse qui a d'autres types de problématiques, d'autres envies, etc. Ça veut pas dire qu'il faut obligatoirement les faire jouer très tôt, etc. On a tout un tas d'outils à notre disposition aujourd'hui, dont le jeu vidéo.
Thibaut Philippette, est-ce qu'il faut introduire le jeu dans l'apprentissage à l'école? On voit qu'en maternelle, c'est le cas,
oui,
en primaire encore, mais dans le secondaire, c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué tout simplement parce que, on va dire, l'institution scolaire a peut-être un regard, on va dire, mesuré par rapport à la place du jeu.
Le jeu fait peur?
Est-ce que le jeu fait peur? Je n'en sais rien. Je pense qu'il y a beaucoup maintenant d'enseignants ou de pédagogues qui sont en tout cas très intéressés par le jeu, qui sont d'une génération peut-être plus jeune aussi et qui ont été bercés par les médias numériques. Maintenant, il y a aussi une difficulté, on va dire, structurelle de l'école, c'est-à-dire qu'elle a ses contraintes, elle a ses dispositifs pédagogiques, elle a aussi cette idée d'évaluation finalement de la progression des élèves, qui n'est pas toujours évidente avec l'idée même de jeu qui implique dans ces définitions, on va dire, canoniques, une idée quand même de liberté, finalement, d'autonomie, de déploiement dans le jeu qui est parfois difficile à finalement faire rentrer dans un cadre qui est, on va dire, entre guillemets contraignant, de l'école qui doit évaluer finalement un certain nombre de progrès. Le jeu le fait. Mais le jeu le fait dans une mesure, enfin le fait par rapport à des activités propres au jeu, et le fait pas par rapport à des activités qui sont extérieures, comme des activités scolaires, des apprentissages mathématiques, français, histoire et autres.
On va essayer justement de s'attarder sur quelques jeux et ce qu'ils apportent au niveau de l'apprentissage, qu'ils permettent aussi avec les jeunes. On fait ça juste après une petite pause.
Cédric Wautier, question clé, jusqu'à midi sur la première.
Et nous parlons de l'utilisation du jeu vidéo, entre autres, hein, dans l'apprentissage et l'apprentissage scolaire. Thibaut Philippette, Vanessa Lalo, qui est donc psychologue et spécialisée dans les jeux vidéo, disait, ben voilà, le jeu fonctionne avec tout le monde. C'est aussi votre avis, ça?
Je dirais que c'est... Là, je vais peut-être avoir un avis un petit peu plus modéré par rapport à ça, et aussi par rapport à l'expérience que j'ai eue avec World of Classcraft, que j'ai utilisée, et qui fonctionnait, on va dire, globalement très bien. Et puis, il y a toujours des résistants. Alors, même les méta-recherches, donc ce qu'on appelle des méta-recherches, ce sont des chercheurs qui sont intéressés pendant une période donnée à un ensemble de recherches sur un sujet, notamment du rapport entre jeu et apprentissage. On s'y constatait ceci, c'est qu'à la fois, on peut identifier un rapport, on va dire, positif du jeu sur les apprentissages en tant que levier de certaines formes d'apprentissage. Maintenant, là où la chose devient difficile à identifier, c'est la forme d'apprentissage, parce que chaque jeu est différent tout d'abord. Donc on dit les jeux vidéo, mais en fait on est face à une panoplie de jeux qui reposent sur des dynamiques qui sont sensiblement différentes, avec des emphases sur des, on va dire, des capacités cognitives qui sont potentiellement très différentes. Et donc là, on sait pas dire exactement quelle forme d'apprentissage ou quel jeu, est-ce que ce jeu-là va avoir la même forme d'apprentissage chez tous les élèves.
Quel jeu fonctionne et pourquoi utiliser tel ou tel jeu dans l'enseignement? On va prendre un exemple concret.
Oui. Quel jeu fonctionne? On peut prendre l'exemple de World of Classcraft qui se base en fait sur
qui est utilisé pour le cours de physique, c'est ça?
Il est utilisé pour le cours de physique, mais en fait World of Classcraft est typiquement un exemple de gamification, c'est-à-dire que c'est un système de jeu qui va pouvoir se greffer comme étant une couche supplémentaire utilisée par l'enseignant pour évaluer ses élèves de manière continue.
En quoi et comment?
Alors, en quoi il commence? C'est-à-dire que l'enseignant va créer un personnage. Donc, chaque élève ou chaque étudiant, si on est dans le supérieur, ce qui était mon cas, va être représenté par un avatar. Donc, ce que Vanessa Lalo a appelé un avatar. Donc, c'est-à-dire un personnage virtuel. Qui va pouvoir monter en niveau en fonction de certains nombres d'activités. Donc, que va faire l'enseignant? L'enseignant va attribuer un certain nombre de points, qu'il va appeler points d'expérience en référence au jeu en ligne traditionnel. Et donc l'élève, par exemple, je prends l'exemple, il va pouvoir récompenser en disant remise de tel devoir, voilà, il gagne 500 points, alors son personnage gagne 500 points et augmente en niveau, son physique évolue, etc. Donc il est quelque part, il y a une récompense visuelle pour l'élève qui peut alors voir vraiment son personnage évoluer.
Mais au niveau du cours, au niveau de l'apprentissage du cours,
alors au niveau de
l'apprentissage de la physique par exemple.
Au niveau de l'apprentissage de la physique, il n'y a pas de raison particulière que le jeu fonctionne mieux, si ce n'est sur un aspect potentiellement motivationnel. C'est-à-dire, au lieu simplement d'être dans un cours ex cathedra qui va donner la matière et la personne va finalement devoir retenir. Ici, c'est un apprentissage qui va être, dans la logique d'un jeu, qui va être un apprentissage plus actif. C'est-à-dire que moi, je l'ai utilisé, par exemple, en mode évaluation continue. Mm-hmm. C'est-à-dire que je n'ai pas donné un cours pendant tout un semestre et après, j'évalue à la fin pour voir si les élèves avaient bien retenu tout ce que j'avais dit. Donc ici, c'est vraiment ce qui implique de l'enseignant, une évaluation continue, mesurer tous les efforts faits par les élèves, ce qui a aussi un effet qui peut être pervers. L'effet pervers étant qu'à partir du moment où on se met dans cette dynamique-là, on est obligé d'être extrêmement attentif et de ne pas passer à côté. Donc d'ailleurs, les élèves réagissaient quand les notes n'étaient pas données, etc.
Ah ben justement, cette interaction entre prof et élève, François Némette a posé la question à Vanessa Lalo, comment finalement amener ce jeu aussi et qu'est-ce qui peut amener dans cette relation entre prof et élève?
Aujourd'hui, ce qui est fascinant, c'est finalement d'arriver, par exemple, avec Minecraft, parce que c'est vraiment un outil qui marche très 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 bien, mais arriver avec Minecraft auprès de jeunes et leur dire, voilà, on va utiliser Minecraft, je connais pas forcément tout, je vous laisse aussi me montrer ce qu'on pourrait faire et sur quoi on pourrait s'appuyer. Et à partir de là, la jeunesse, elle vient failloter, vient montrer tout plein de choses qu'ils connaissent. Ils nous mettent pas du tout en échec, en fait. Ils vont pas du tout discréditer, et au contraire, ils vont être intéressés de pouvoir montrer ce qu'ils savent faire et tout va bien se passer. Mmh. Si à l'inverse, on arrive en disant voilà, on va faire ça comme ça et moi je connais mon outil par cœur, les jeunes vont essayer de vous montrer toutes vos failles, tout ce que vous savez pas et ça va être la cata. Donc justement, c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui de se dire la jeunesse a des choses aussi à nous apporter, à nous montrer. On ne sait pas encore tout ce qu'ils savent faire et comment ils pensent les choses. On a l'impression qu'ils savent tout faire, mais ils ne savent pas non plus penser les choses. Ils n'ont pas de regard critique sur tout ça. Donc, je crois qu'il y a vraiment une co-construction à faire aujourd'hui de mutualiser un peu les connaissances et les compétences de ces jeunes et nos connaissances et nos compétences à nous, qui ne sont pas forcément les mêmes, mais qui sont parfaitement complémentaires et on pourra réduire comme ça les fossés générationnels, on pourra mieux accompagner cette jeunesse qui est un peu paumée parce que finalement ils n'ont pas d'accompagnement numérique donc ils font un peu n'importe quoi aussi. Donc le tout c'est de cadrer un peu tout ça. Chaque humain est différent, chaque joueur est différent, on a vraiment tous un rapport au numérique qui est subjectif. Donc l'erreur je crois aujourd'hui c'est de vouloir essayer de tout aplanir et de tout faire de la même manière avec un cerveau unique. Non, au contraire.
Le rôle du prof doit évoluer aussi quelque part.
Ah oui, complètement. Mais de toute façon, la jeunesse est en train d'obliger les professeurs à bouger. Et on voit bien aujourd'hui, dans l'éducation nationale, en tout cas en France, tout est incité à bouger, mais par les petits. Ça va venir au fur et à mesure par les maternelles qui vont ensuite devenir des primaires et qui vont pousser aussi à des changements de posture de plus en plus parce qu'on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix. Thibaut Philippet, aujourd'hui, on se doit d'amener une autre manière d'enseigner.
Tout d'abord, je pense que les pédagogies, parce qu'il n'y a pas qu'une pédagogie, évoluent de manière sensible et ils n'ont pas besoin forcément du jeu pour ça. Donc, il y a différents modèles pédagogiques. Je ne suis pas, moi-même pas, on va dire pédagogue de formation, mais je suis pédagogue de pratique. Mais voilà, donc ça évolue. Et je pense effectivement que là.
Oui. Est-ce que le jeu peut vraiment réduire ce fossé générationnel dont parlait Vanessa Lalo?
Alors, c'est un peu la thèse en courant aux États-Unis qui est les Digital Game Based Learning, de dire, ben voilà, cette génération Y, maintenant on parle de génération Z, est finalement plus drillée aux médias numériques, à ces interactions. Avec parfois, en fait, sur le terrain, des études sociologiques montrent que finalement, ben, oui et non, parce qu'ils sont drillés à l'usage, mais pas forcément au bon usage. Oui, c'est effectivement, il y a une tendance à dire oui, voilà, maintenant les modèles cognitifs ne sont pas ceux d'il y a 20 ans ou 30 ans. Clairement, les médias numériques jouent un rôle important vis-à-vis de ça. Maintenant, il ne faut pas, je pense, verser non plus dans la dynamique inverse, de croire qu'il faut absolument tout gamifier ou faire du jeu de tout.
Quelles sont justement les limites de cette gamification? On a une grosse minute pour en parler.
Une grosse minute pour en parler. Alors, par rapport à l'apprentissage, la limite de la gamification, c'est qu'elle a un intérêt que si elle est liée vraiment à un objectif pédagogique spécifique. C'est si on gamifie pour gamifier, ça ne va pas marcher du tout. Et même parfois, ça va avoir des effets où on va se demander, mais tiens, pourquoi j'ai des points pour ça, pourquoi? Enfin, donc la structure va... Il faut vraiment qu'il y ait une signification. Maintenant, de manière plus générale, la gamification, il ne faut pas l'oublier, c'est que c'est aussi un mouvement qui est surtout porté en dehors de l'école par un courant marketing, on va dire. Ah oui. Donc au départ, c'est pour vendre des choses, donc c'est surtout des sites web qui ont commencé dans ces mouvances-là. On pense aussi à Foursquare, qui est cette application de géolocalisation, qui est un exemple souvent cité en termes de gamification. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs, on va dire, économiques, et des acteurs qui ont des intérêts aussi, que ce soit pour la gamification, pour les serious games ou d'autres choses, qui voient de manière très, très intéressée la place qu'ils pourraient avoir à l'école, ce qui est un nouveau marché pour eux à évidemment exploiter. Donc, il faut être attentif à ça aussi.
Être attentif et donc bien se former, et bien, pour les profs aussi.
Alors, pour les profs aussi, évidemment. Nous, on voit ça aussi en éducation aux médias, parce que c'est une autre matière qui m'intéresse avec des chercheurs de l'UCL, où on a beaucoup travaillé ces questions-là, et notamment la place de l'éducation aux médias à l'école. C'est que les enseignants doivent être formés avant de pouvoir former, eux, correctement.
Alors, pour ceux qui voudraient se former, je rappelle, le 24 avril, cette table ronde autour de la ludification par l'apprentissage, ça se passera au Point Culture de Louvain-la-Neuve. Merci Thibaut Philippet, je rappelle, docteur en sciences de l'information et de la communication, professeur invité en sciences et techniques du jeu.
Merci beaucoup.
Voilà, question clé, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, nous parlerons de toute autre chose. Ne trichez plus avec vous-même et avec les autres. Un livre de Thierry Gobert. Et puis, la chicha et ses réels dangers sur la santé.
Podcast, la première.